Bonjour à tous, c'est l'heure du carillon. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette émission mensuelle proposée par des chrétiens du Villefranchois. Voilà, nous sommes donc autour de la table ce matin et nous allons nous présenter donc...
Bernard Lauriac, donc... je dirais multicarte, puisque je suis engagé dans plein d'associations, et je m'occupe aussi de ma famille, puisque cette année, on a fêté avec ma femme 50 ans de mariage. Ça marque.
Très bien. Les noces dorées, mais on n'a pas bu beaucoup, je trouve, mais enfin, il faudra faire ça.
Faire ça.
Et Didier, donc, le père Didier de Villeneuve, mais qui travaille dans le Villefranchois, et donc, après un petit moment d'absence, je retrouve avec joie le studio. Et ce matin, nous avons décidé, comme c'est le mois de novembre, de parler de la Toussaint. En effet, pour croyants ou pas croyants, le mois de novembre est marqué pour beaucoup par cette fête. D'ailleurs, même dans notre contexte de laïcité galopante ou de laïcisme mal compris, enfin je sais pas comment il faut dire, les vacances restent celles de la Toussaint, ce qui est étonnant. Alors pour pas qu'on dit les vacances de printemps, les vacances d'hiver, tout ce qu'on veut, mais Toussaint, ça reste Toussaint. Et donc, beaucoup de familles, je vous dis, croyantes ou pas, vont au cimetière, vont honorer leurs défunts. Et donc, on parle de ce mois, de la Toussaint. Parce que c'est vrai que la mort est inéluctable pour tous. La mort fait partie de la vie. Et pourtant, toujours, la mort nous surprend. Toujours, elle nous dérange. Toujours, la mort des autres nous confronte à nos propres limites, à nos propres peurs, à nos propres pauvretés. Oui, la mort est inéluctable et pourtant, on y est confronté. Elle est notre lot. Et depuis les origines de l'humanité, les hommes s'interrogent sur la mort. Et d'ailleurs, on dit que c'est le propre de l'homme par rapport au règne animal que de chercher des rites funéraires, que de chercher le lien avec ceux qui l'ont quitté. C'est le culte des ancêtres dans certaines civilisations. C'est voilà le culte des saints pour les chrétiens ou autre chose parce que le culte des saints est plus particulièrement chez les catholiques et c'est autre chose, un autre lien comme ça, une autre forme de lien spirituel avec ceux qui nous ont quittés. Alors ces pratiques sur la mort sont liées aux cultures, aux diverses croyances, elles sont liées au contexte social et même parfois économique, la manière dont on vit toutes ces choses sur la mort. Donc ce matin, on va parler de la mort, mais surtout pour les chrétiens, de la vie après la mort, de la vie au-delà de la mort. La foi, vous savez, la foi ne rend pas les séparations moins douloureuses. La foi, elle est simplement une petite lumière sur la route qui éclaire un avenir en Dieu. Et les saints, ceux que l'on nomme tels les saints, sont ceux qui sont repérés par nous pour être justement, avoir réussi de passer dans cet avenir de Dieu et en étant reconnu. Mais ça ne veut pas dire que seuls ceux du calendrier sont saints. On en connaît quelques-uns. Et la Toussaint, c'est justement pour faire éclater les limites du calendrier et nous ouvrir à une foule immense, comme dit l'Écriture, une foule immense que nul ne peut dénombrer, une foule immense que nous rejoignons dans ce qu'on appelle la communion des saints, c'est-à-dire tous ensemble, unis, pour la gloire de Dieu. La fête de la Toussaint, c'est cela.
Donc on commence à parler des saints.
On commence à parler des saints.
D'accord. Alors, parmi toute cette innombrable foule des saints, moi, il y en a deux catégories qui m'intéressent particulièrement. Il y a les humbles et il y a les rebelles, les subversifs. Je m'explique. En prenant des exemples, sur les humbles, On va, au mois de décembre, célébrer Henri Grialou, qui a pris le titre de Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Henri Grialou, donc c'est la catégorie des humbles. Il était, disons, fils d'agriculteur ouvrier dans le bassin. Il est né au Gard. Il a été ensuite au collège de, au petit séminaire de Graves, puis au grand séminaire de Rodez, puis au Carmel, carrément. Donc, il a passé sa vie surtout sur la prière, mais une prière tournée, bien entendu, vers les problèmes du monde. C'est pas quelqu'un qui s'est replié dans un face-à-face avec Dieu. Il a voulu associer tous les problèmes du monde à sa prière. Donc, il a été intéressé très tôt par les livres de Thérèse de Lisieux et par Saint Jean de la Croix. Donc, c'est une catégorie de saints qui est pas un héros, ni un superactif, mais il a su dépasser les conditionnements sociaux et il a été très marqué par sa mère, par sa sœur, et donc il a été marqué aussi par la Vierge Marie et par l'Esprit Saint. C'est les deux points, je crois, que... Je ne sais pas si, Didier, tu es au courant un peu de sa vie,
oui.
Mais c'est à peu près ça. Alors, deuxième catégorie, toujours en Aveyronnais, c'est le superactif, Lucien Galland, qui est né, lui aussi, en Aveyron, à Golignac, dans une famille d'agriculteurs, qui est passé par le collège d'Espalion, le petit séminaire de Rodez. Il est devenu prêtre et il s'est engagé à la mission étrangère. Donc là, on l'a envoyé d'abord en Chine et puis au Laos. Et il a été un des martyrs du Laos. On va, au mois de décembre, célébrer les 17 morts martyrs du Laos. Et ce Lucien Galland il faut bien le dire, a été par le régime communiste fusillé lors d'un guet-apens et achevé au poignard. Enfin, vous voyez, c'est un martyr, quoi. C'est pas rien, quand même. Hein,
Le mot martyr, ça veut dire témoin de la foi. Témoin de la foi jusqu'au bout. Le mot martyr, c'est le même mot en grec que témoin. Donc, ils n'ont pas renié leur foi malgré le danger et malgré la mort imminente.
Alors, quand on pense aux martyrs, on pense aux martyrs de la primitive Église.
Ouais, qui étaient mangés par les lions et tout
voilà.
Ça. Voilà, oui.
Mais il y en a eu aussi au XXe siècle.
Il y en a encore.
Et alors, puisqu'on parle de Lucien Galland, on se tourne vers l'Asie. Il y en a eu plus d'une centaine au Vietnam, en Chine, en Corée, qui ont été canonisés déjà par Jean-Paul II. Et le pape François actuel, je pense, ne tiendra pas, parce que il a ce pouvoir, le pape, de ne pas tenir compte de deux miracles, parce qu'en principe, dis-moi Didier, il faut faire deux miracles pour être canonisé.
C'est un peu compliqué, c'est vrai. D'abord, cette émission, nous avons voulu la préparer ensemble comme on le fait d'habitude, et puis les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu trop se retrouver, à part par téléphone ou par échange de messages, donc on marche un peu sur des œufs, mais quand même, on s'est dit un peu un canevas, et donc on avait dit avec Bernard de parler de ces saints. Pourquoi Marie-Eugène ou Henri Grialou, pourquoi Lucien? Parce que ce sont des Aveyronnais et qu'ils vont être bientôt béatifiés. Alors pour être saint, il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a la reconnaissance des vertus. Alors là, c'est une étape, autrement dit, c'est quelqu'un qui a eu une vie où il s'est efforcé, pas d'être un parfait, parce que les saints ne sont pas des parfaits. Les saints, c'est des gens ordinaires qui ont toute leur vie cherché Dieu. Ce sont des chercheurs de Dieu et qui ont mis toute leur énergie à chercher et à annoncer ce qu'ils découvraient de ce Dieu. Voilà, ouais, pour dire simple. Donc, on reconnaît les vertus. Et ensuite, deuxième étape, ils sont béatifiés. Alors autrefois, avant François, il fallait un miracle pour attester de la béatification, c'est-à-dire quelqu'un qui s'était tourné vers le Seigneur par l'intercession de cette personne et qui avait obtenu guérison. Oui.
Alors je me pose la question, mais pour attester des vertus, c'est les gens qui l'ont connu qui peuvent en témoigner.
Voilà. Donc, si tu veux, dans un diocèse, dans une congrégation religieuse, dans un groupe de gens, on dit, tiens, la vie de cet homme, de cette femme, a quand même été une vie qui inspire, qui peut être un témoignage, qui peut être un modèle, qui peut être un exemple. Et à partir de là, on lance tout un procédé, des enquêtes et tout ça. Vous savez, le fameux avocat du diable qui, lui, va s'efforcer de faire ressortir tout ce qui aurait cloché dans cette vie. Alors, on parle de ces deux-là parce que le 20, je crois que c'est le 19,
le 20 novembre,
à Avignon, le père Eugène, Marie-Eugène va être canonisé, et puis l'autre, je crois que c'est le 17 décembre, là, avec les, ou je sais pas, enfin, c'est très, très rapidement qu'ils vont être béatifiés et qui est le chemin avant la canonisation. Voilà. Donc c'est intéressant de parler de ces gens-là, mais pour dire que les saints, et on y reviendra tout à l'heure avec sans doute Émilie ou d'autres, pour dire que les saints, ce sont pas obligatoirement des parfaits, ce sont des chercheurs de Dieu. Les saints, c'est chercher Dieu dans l'ordinaire de la vie.
Moi, personnellement, ce qui me surprend et qui m'interroge même, c'est l'œuvre, les réalisations de ces saints au cours de leur vie. Ça paraît quelque chose d'incroyable, parce que certains, on se demande comment ont-ils pu faire. Et il semblerait qu'ils ont été conduits. Ce sont des gens qui, non pas par leur perfection, mais par leur qualité de pureté, de bien vouloir faire, d'avoir su se confier au Seigneur, se laisser guider par lui, et bien ils arrivent à faire des choses qu'un chef d'entreprise, s'il avait voulu le mettre en place, il aurait eu toutes les difficultés de la terre. Et avec l'aide du ciel, eh bien, ils sont arrivés à faire des choses. On pourrait citer des saints, je ne vais pas le faire, mais qui ont eu des réalisations absolument incroyables, qui ont des répercussions dans le monde entier. Prenons simplement Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle est morte jeune à 24 ans, je crois.
Oui.
Elle est restée dans un carmel, elle n'a pas bougé. Regardez ce qui s'est passé. L'exemple qu'elle a été, c'est, elle a été déclarée docteur de la loi, ce n'est pas rien quand même.
Docteur de l'Église. Alors, il faut, les gens qui nous écoutent ne sont pas obligatoirement au courant, mais c'est un peu compliqué tous ces termes-là. Docteur de l'Église, ça veut dire que son enseignement apporte, si tu veux, apporte un élément essentiel à la vie en Église. Voilà, et c'est ça que ça veut dire, docteur de l'Église. Et docteur, c'est celui qui enseigne. Donc son enseignement, ses écrits, et elle, qu'est-ce qu'elle a écrit? C'était l'humilité, c'était la pauvreté, donc tu viens d'en parler avec Marie-Eugène, c'était les choses simples. Mais c'est à partir de son couvent, de ses sœurs, la manière dont elle a vécu, la manière dont elle a vécu son passage, mais puisque tu en parles, la manière aussi dont elle a vécu cette nuit de la foi qu'elle a connue. Oui. Parce que, au début, quand on a parlé justement des vertus de cette manière de vivre, on voulait cacher certains de ses écrits, pour qu'elle soit béatifiée ou canonisée, on voulait cacher, pas moi, hein, mais autour d'elle, on voulait cacher certains de ses écrits où elle exprimait son doute, sa quête, sa peur, sa nuit de la foi. Et d'autres saints ont connu ça. C'est pas pour ça qu'ils ne sont pas saints.
Voilà. Mais c'est très, j'en parlerai avec Émilie de Rodat qui a connu les mêmes
problèmes. Mais oui, et Mère Teresa, et puis d'autres. Voilà.
Non, mais c'est important de signaler ça. C'est bien de le faire parce que on s'aperçoit que finalement ce sont de vrais humains et qu'on leur ressemble, même si nous ne sommes pas dans l'état de perfection qu'ils ont réussi à acquérir.
Si tu veux, dans l'opinion publique, même pour nous, le saint c'était qui? C'était, voilà, c'est quelqu'un, un héros, un super mec, un super homme qui faisait des choses extraordinaires, super femme, pardonnez-moi mesdames, mais quelqu'un qui faisait des choses extraordinaires comme ça, parce qu'il était, si tu veux, dans ce lien spirituel avec Dieu qui lui donnait la force de dépasser les choses impossibles et tout. On a vu ça. Alors que, dans la primitive Église, les saints c'était qui? C'était tous les baptisés. Tous les baptisés, ceux qui avaient reçu le baptême, c'est-à-dire ceux qui pensaient que seul Jésus-Christ pouvait leur apporter la vie éternelle, l'amour éternel. Parce que la vie éternelle, le salut, c'est ça. C'est être capable d'aimer sans aucun obstacle à l'amour. C'est ça, le salut, hein.
Oui. Voilà, regarde. Moi, je vois très bien Émilie entourée d'une auréole.
Mais Bernard, les 16 étaient des humains. Voilà. Ils traversaient la nuit de la foi. Donc, ça veut dire que même nous, on peut être des saints.
Mais j'en suis sûr que tu le sauras.
Voilà. Si vous voulez, tout homme, dit saint Jean, tout homme qui fonde sur le Christ une telle espérance, c'est-à-dire cette possibilité de réaliser l'amour en plénitude, c'est ça, hein, le salut. Tout homme qui fonde sur lui, sur le Christ, une telle espérance, eh bien, jusqu'à se rend pur comme lui-même est pur, c'est-à-dire se rend tout à fait détaché de toutes les contingences qui pourrait le retenir. Et notre chemin sur la terre est de nous préparer à cela. Et depuis notre baptême, nous sommes saints, c'est notre vocation. Dieu nous a créés pour être saints. Et nous sommes créés à l'image comme à la ressemblance de Dieu.
Avant de s'envoler vers ses hauteurs, je propose d'écouter un peu de musique.
Voilà, tu as raison, parce qu'il y a un moment, alors on écoute un chant de Sylvanès.
Rappelons que nous sommes sur CFM Radio et sur Radio Présence.
Alors, sur CFM Radio, c'est 90.2, voilà, et puis sur Radio Présence. Voilà, on écoute de la musique, on fait signe à notre ami là-bas qui met la musique en route. Ce chant exprime l'espérance chrétienne, que dans la mort je ne m'endorme pas, parce que pour les chrétiens, la fin de vie est le passage vers une autre vie qui commence dès à présent. Et c'est pour ça qu'il nous faut construire dès à présent une terre plus habitable, mais ça c'est une autre question. On continue donc à parler de ces saints qui sont des héros du quotidien, mais comme beaucoup autour de nous le sont, dans nos familles, parmi nos amis, des héros du quotidien qui sont justement des chercheurs de vérité, des chercheurs de solidarité, des chercheurs de paix, des chercheurs de spiritualité. Et donc, on a vu ces deux figures qui sont de chez nous, et il y a d'autres figures dont Bernard va nous parler un petit peu aussi encore. On continue à parler de ces figures un peu marquantes.
Alors, en ces temps où les gens ne pensent qu'à la réussite matérielle, qu'à l'argent, on a besoin de saints, J'ai lu un livre de Joseph Delteille sur François d'Assise, et il dit « Ce qu'il nous faut, c'est la Lune. Des intrus, des insolites, des inouïs. Ah, si un battement de cœur pouvait incendier la merde !» Bon, ça c'est Delteille, hein. Ceux qui connaissent Delteille ne seront pas étonnés par ce genre de propos. Alors, François d'Assise, au départ, ça rejoint ce que tu disais, Didier, c'est un fêtard qui mène à la Dolce Vita, à Assise, avec ses copains. Et puis, finalement, après une période difficile, il a connu la prison, et il abandonne toutes les richesses familiales, et il doit affronter la malédiction paternelle, carrément. Donc, il laisse tout, et il va prendre l'évangile à la lettre. C'est-à-dire que il se penche pas vers la pauvreté, il se fait pauvre, mendiant. Et il est accompagné par une petite troupe, et il va à l'inverse de ce que faisaient les bénédictins dans leur monastère. Lui, il va dans les villes. Et là, il pense que finalement l'Église, c'est en ce sens qu'il est subversif et qui me plaît. Il dit, l'Église de l'époque, nous sommes au XIIIe siècle là, hein, avec François d'Assise, il dit, l'Église est piégée dans la féodalité, les évêques sont des seigneurs, les monastères des seigneuries collectives, donc il faut prendre l'Évangile à la lettre, et il cherche une fraternité élargie même à tous les êtres vivants. Donc il s'intéresse aux pauvres, mais il vit comme un mendiant, mais il s'intéresse aussi à tous les êtres vivants, aux plantes, aux animaux. C'est un poète, hein. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est son ouverture aux exclus. Et ça, c'est d'actualité, hein. Parce que moi, j'ai lu que certains chrétiens, quand on leur dit d'accueillir des migrants, ils rechignent. Donc lui, il va au-devant des exclus.
C'est François qui va vers les périphéries, c'est ça?
Exactement. Alors, nous avons un évêque qui s'appelle François, un pape qui s'appelle François, et qui se réfère justement à François d'Assise, qui refuse notre pape l'enlisement dans la consommation.
Oui, mais non, j'étais en train de penser en t'écoutant. C'est très intéressant, la vie de François d'Assise. Il n'est pas le seul à avoir connu un tel revirement. Mais je pense à sa prière où il dit, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, là où est la haine, que je mette l'amour, là où est l'offense, que je mette le pardon, là où est la discorde, que je mette l'union, là où est l'erreur, que je mette la vérité, là où est le doute, que je mette la foi, là où est le désespoir, que je mette l'espérance, là où sont les ténèbres, que je mette la lumière, et là où est la tristesse, que je mette la joie. Et bien lorsqu'on médite cette prière, je trouve qu'elle est quand même assez extraordinaire.
Oui. Alors c'est vrai que aujourd'hui, suivre l'Évangile, parce que c'est ça notre vie chrétienne et depuis notre baptême, c'est essayer de se faire récepteur et émetteur de l'Évangile, d'une bonne nouvelle, puisque le mot Évangile, c'est bonne nouvelle. Récepteur, je reçois et j'essaie de donner, émetteur. Mais je me demande même, alors c'est un peu subversif ce que je vais dire, mais je me demande même si pour nous les chrétiens, l'Évangile est vraiment une bonne nouvelle.
L'Évangile
est-elle et
c'est-à-dire.
Voilà. Alors, je te donne un exemple, c'est ce que tu disais, mais je veux viser personne et je me mets le premier en cause. Et est-ce que c'est une bonne nouvelle, l'option préférentielle pour les pauvres, dans laquelle je dois m'engager? Est-ce une bonne nouvelle, l'accueil de l'étranger, de l'immigré? Est-ce une bonne nouvelle, le partage comme seule richesse?
Mais pour le cœur, oui.
Oui, non, mais ça je te dis dans le concret de ma vie.
C'est une nouvelle qui vient de secouer.
Oui, tout à fait.
Dans le concret de ma vie, est-ce que c'est une bonne nouvelle?
Elle est exigeante,
pourtant,
oui.
Pourtant, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a rien d'autre dans les béatitudes. J'y viendrai tout à l'heure dans les béatitudes. Cet appel au bonheur, bonheur, bienheureux, heureux, en avant, heureux. Et voilà, être saint, c'est croire au bonheur malgré les limites de ma vie. Les saints d'aujourd'hui, qui sont-ils? Ce sont des hommes bons, car ils essaient d'être le reflet de l'amour de Dieu mis à la portée des hommes. Ils sont des chercheurs de Dieu, des désireux de Dieu dans toutes les circonstances de leur vie. Désirer Dieu dans toutes les circonstances de ma vie, même si ces circonstances ne sont pas très reluisantes. Voilà, c'est ça être saint aujourd'hui.
Alors, c'est ce qu'a fait aussi, donc, mon deuxième exemple, c'est Émilie de Rodin, qui a vécu dans une période de crise, hein, puisqu'elle est née un peu avant la Révolution, dans une famille de nobles. Vous vous rendez compte, c'était donc une période de crise. Et elle va vivre cette période de crise à sa façon. C'est-à-dire que elle va abandonner les codes culturels de sa famille, parce que au départ, elle était dans l'école de Madame de Saint-Cyr, qui n'accueillait que les filles qui pouvaient payer, et elle s'est fait l'institutrice des pauvres. C'est-à-dire, à une époque où la République ne s'occupait pas du tout de l'enseignement des filles, elle a fondé des écoles dans le milieu rural. Et ça, elle l'a fondé partout, hein. Ça, c'est quand même très très important. Et puis, elle a découvert, dans le bassin houillé, qui venait de se développer, nous sommes au 19e siècle, à la période de la révolution industrielle des mines. Oui. Et donc, elle s'est aperçue, là, qu'il y avait des chômeurs, il y avait des prostituées, et elle a dit, plutôt que de rester dans mon cloître, il faut aller au-devant de ces gens. Et elle l'a fait, et elle a traversé, la malheureuse, toutes sortes d'épreuves. Des deuils dans sa famille, des problèmes de santé, l'incompréhension des curés et des évêques de l'époque, parce que on parle de l'Église
en majesté.
Mais, de temps en temps, il faut secouer le cocotier. Hein, et elle l'a fait. Hein, elle l'a fait et elle a vécu, comme tu le disais, la nuit de la foi. Et elle l'a vécu pendant plusieurs années, en le cachant d'ailleurs à ses sœurs.
En le cachant parce que son père spirituel, ou son confesseur, je ne sais pas lequel il
est. Père Martin.
L'abbé Marty.
Oui, Marty, pardon, dit, lui avait dit, silence là-dessus, tu n'en parles pas. Mmh. Oui, je trouve que c'est...
Oui. Enfin, on a retenu l'avis de Saint-Émilie de Rodin et pas des évêques de l'époque.
Oui, oui, voilà, c'est ça. Mais tu as raison, voilà. Hein.
Et donc, alors moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'elle a fondé une congrégation qui n'est pas resté qu'en France, qui a...
Essaimé dans le monde entier.
Essaimé dans le monde entier. Et aujourd'hui, les sœurs de la Sainte Famille, il y en a pas beaucoup qui viennent de France. Elles viennent du Liban, de Côte d'Ivoire, des Philippines, du Vietnam, du Brésil, partout. Donc ça, c'est quand même extraordinaire, et ça nous remet en question dans notre petite vie douillette, parce que je les ai vus vivre dans des conditions tout à fait difficiles.
Bon, après ces deux exemples que nous a donné Bernard Lauriac, je voudrais quand même revenir un petit peu sur ce que tu as évoqué, l'autre vie. Je pense que ça va intéresser les auditeurs. J'aimerais que tu nous parles, toi, Didier Grandjou, notre prêtre bien-aimé, de ce que peut être l'autre vie.
Écoute, moi, les gens se disent, voilà, être dans l'éternité de Dieu, c'est quoi ? On n'a pas de révélation scripturaire venant des Écritures. Et moi, je dis parfois, en souriant, que j'ai une certitude pour l'éternité, c'est une vie sans agenda et sans portefeuille. Enlève de notre vie la contingence du temps, l'agenda, ou de la montre, enfin, comme tu veux, la contingence du temps et de l'argent, il ne nous reste plus qu'à nous aimer. Et à ça, j'en suis persuadé, tu vois. Et cette aspiration à l'amour total, malgré mes limites, c'est elle le moteur de mon existence, tu vois. Et le Christ nous dit, eh bien voilà, vous êtes fait pour cette vie-là, au-delà même du passage de la mort. Alors, la foi chrétienne, c'est ça. Alors, on y adhère ou on n'y adhère pas. Là, je veux dire que chacun... Mais si j'y adhère, je ne peux pas vivre n'importe comment. Et déjà, je dois porter sur mon visage les traits du ressuscité. Je dois rayonner de cette bonne nouvelle, même si elle est exigeante, même si elle est difficile à vivre, même si elle m'en bouscule tout le temps. Sullivan, moi j'aime beaucoup Sullivan, qui était un prêtre, poète, journaliste, a écrit... une phrase qui est un peu le moteur de mon existence et qui parfois peut déranger autour de moi. Un chrétien, donc un disciple du Christ, celui qui veut se référer à Jésus-Christ, un chrétien qui a quelque conscience de ce qu'il est, ne peut être qu'un rebelle. Eh bien, c'est-à-dire que, parfois et souvent, il nous faut ramer à contre-courant dans ce monde, non pas pour juger le monde, non pas pour le critiquer et tout, mais pour le transformer de l'intérieur, tu vois.
Et bien, si notre énergie était dépensée à cela au lieu de la destruction comme l'on voit, le monde changerait tout simplement.
Mais oui, mais les béatitudes, c'est le monde sens dessus-dessous, cet appel au bonheur, cet appel au bonheur. Mais voilà, alors nous sommes confrontés à cela avec, si tu veux, nos limites et nos qualités, notre désir de changement, mais aussi notre désir de rester tranquille. Moi, parfois, je dis aux gens, est-ce qu'on veut que nos prières soient exaucées quand on prie? Alors, moi, je suis pas sûr. Et je crois qu'il nous faudrait prier pour que, vraiment, on souhaite que nos prières soient exaucées. Et demander au Seigneur des choses dont on veut qu'elles soient exaucées. Je prends un exemple. On a des prières toutes faites. Seigneur, rends-moi plus généreux. Alors, s'il m'exauce, ça veut dire que les ennuis vont commencer. Et alors, est-ce que je le veux vraiment? Non, mais c'est un peu, caricatural, voilà, ce que ça, je dis, tu vois. Ouais. Mais, oui, Seigneur, voilà, je veux un monde meilleur, je veux un monde plus solidaire. Ah, mais, donc, si je veux un monde plus solidaire, comment je vais m'engager pour porter un autre regard sur les autres, pour me rendre plus solidaire des autres? Voilà, mais les saints, c'est ce qu'ils ont fait, avec parfois bien des réticences, mais c'est ce qu'ils ont fait quand même. Voilà, tu vois, c'est pour ça qu'on parle des saints, et que finalement, si on fête les saints, c'est pas pour fêter Superman ou Superwoman, peu importe, c'est pour se dire, je voudrais, comme eux, essayer d'être un héros du quotidien de ma vie.
En fait, c'est des exemples pour nous.
Voilà, si voilà. C'est des balises sur notre route. Mmh. C'est des balises sur notre route.
Non, mais là, c'est un très bon exemple sur ce que l'on doit faire. Mais l'autre vie, c'est les gens attendent aussi, je suppose. Qu'est-ce que tu veux dire, quelques mots sur la vie après le passage?
On va parler
dans l'autre partie.
Dans
oui,
l'autre d'accord. Partie, parce que moi, je pense que le vrai travail des vivants, c'est de prendre soin de la vie, de la sienne et de celle des autres. Il y a une phrase qui fait bondir les gens dans l'Évangile qui dit « Laissez les morts enterrer les morts ».
Oui.
Hein, quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas exactement.
Et toi, alors, non mais, tu vois, le problème, c'est que quand on cite cette phrase « Laissez les morts enterrer les morts », et qu'on s'arrête là, ça paraît très dur, ça paraît... Mais, toi, va t'occuper des vivants. Tu vois,
oui,
voilà.
Faut lire la suite.
Voilà, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Si tu laisses les morts enterrer les morts, c'est pour t'occuper des vivants. Et donc, quand on accompagne une famille en deuil, on accompagne les vivants qui vont vivre cette séparation, cette rupture, ce drame, cette souffrance. Voilà, c'est ça que ça veut dire.
Hein. Oui, moi je crois que ce qui est fondamental, c'est la relation d'accompagnement.
Mais bien sûr, voilà.
D'accompagnement.
Alors, si vous voulez, on va changer de caractère petit à petit. Et j'ai choisi comme deuxième plage de musique... Le testament de Brassens. Voilà. C'est ça, non? Oui, oui. Alors, excusez-moi, on est en direct. Enfin, pas en direct, mais on enregistre et je fais signe à notre ami pour savoir si on est bien d'accord. Donc, le testament de Brassens, on écoute.
Je serai triste comme un saule quand le Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule, va-t'en voir là-haut si j'y suis. Alors du ciel et de la terre, il me faudra faire mon deuil. Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? S'il faut aller au cimetière, je prendrai le chemin le plus long. Je ferai la tombe buissonnière, je quitterai la vie à reculons. Tant pis si les croque-morts me grondent, tant pis s'ils me croient fou allié. Je veux partir pour l'autre monde, par le chemin des écoliers. Je veux partir pour l'autre monde par le chemin des écoliers. Avant d'aller compter fleurettes aux belles âmes des damnés, je rêve d'encore une amourette, je rêve d'encore m'enjuponner. encore une fois dire je t'aime, encore une fois perdre le nord. En effeuillant le chrysanthème qui est la marguerite des morts. En effeuillant le chrysanthème qui est la marguerite des morts. Dieu veuille que ma veuve s'alarme en enterrant son compagnon. Et pour lui faire verser des larmes, il n'y ait pas besoin d'oignon. Qu'elle prenne en seconde noce un époux de mon acabit. Il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Qu'il boive mon vin, qu'il aime ma femme, qu'il fume ma pipe et mon tabac. Mais que jamais mort de mon âme, jamais il ne fouette mes chats. Quoique je n'ai pas un atome, une ombre de méchanceté. S'il fouette mes chats, y a un fantôme qui viendra le persécuter. S'il fouette mes chats, y a un fantôme qui viendra le persécuter. Ici gît une feuille morte, ici finit mon testament. On a marqué dessus ma porte, fermée pour cause d'enterrement. J'ai quitté la vie sans rancune, j'aurai plus jamais mal aux dents. Me v'là dans la fosse commune, la fosse commune du temps. Me v'là dans la fosse commune du temps.
Alors il y a souvent la confusion entre le 1er novembre qui est la Toussaint, la fête des saints, et le lendemain, le 2 novembre, où on commémore les morts, les défunts. Donc quelle est la différence? Pourquoi cette confusion?
Parce que si tu veux, pour les gens, à mon semble-t-il, mais on pourrait tous répondre, c'est pas uniquement le prêtre qui dit ça, c'est le vivant parmi d'autres vivants. Parce que c'est vrai que quand on pense à nos défunts, dans la foi, on voudrait qu'ils soient tous saints. Et moi, je le crois. Mais c'est vrai qu'aussi, ceux qui n'ont pas été reconnus ou comme ça, on veut les porter dans la prière. C'est une manière finalement d'associer les deux choses. Cette espérance en la vie éternelle et la prière pour les défunts, tu vois, et la certitude qu'ils sont dans la gloire de Dieu. Donc pour les gens, alors par contre, tu vois, le fait aussi c'est que le 1er novembre est férié et le 2 novembre ne l'est pas.
Voilà, on fêtait les deux en même temps.
Les gens viennent le 1er novembre voilà. Et vont visiter les cimetières, voilà, vont honorer leurs défunts et tout ça. Ouais. Mais c'est dans la même mouvance de prière, je crois, me semble-t-il. Mmh. C'est quelque chose comme ça. Hein. Mmh. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que tu regardes les gens, qu'est-ce qu'on retient d'une vie? Eh bien, c'est ce qui nous a permis de grandir, ce qui nous a fait s'épanouir, ce qui nous a fait, on retient ça de la vie. Les petits travers, souvent, on les oublie notre mémoire est sélective et c'est à mieux. Et si on évoque nos aïeux, c'est pas pour les frasques qu'ils ont pu faire, même si on les connaît, mais c'est plutôt pour ce qu'ils nous ont laissé de positif et puis pour avancer. Je veux dire que dans toutes les familles, c'est un peu comme ça.
C'est ce qui apparaît justement dans les textes qu'on lit sur ceux qui nous ont quittés.
Voilà.
Voilà, c'est tout ce qui a été beau dans leur vie.
Alors, c'est vrai qu'il y a parfois, moi ça m'est arrivé comme prêtre de devoir accompagner des familles et des défunts qui avaient vraiment eu une vie un peu trouble, très difficile, avec leurs proches, avec leur entourage. Alors tu sais, qu'est-ce qu'il faut dire ces jours-là? Moi je suis disais simplement, alors tu peux pas faire le panégyrique, puis d'ailleurs c'est pas le lieu, et puis il y a que Dieu qui peut le faire. Je disais qu'on confiait le mystère d'une vie au mystère de Dieu et de l'amour de Dieu. C'est tout ce que je pouvais dire, parce que il y a des voix, tu sais, c'est un peu difficile d'accompagner quelqu'un qui t'a fait souffrir, qui t'a embêté, qui a été acariâtre, qui voilà, hein. Voilà, donc ça c'est une chose. Et donc c'est pour ça que les deux, et c'est vrai que pour, si tu veux, faire, on dit faire son deuil, je ne sais pas si c'est une bonne expression, je ne le crois pas, mais quelque part, la mort des autres nous confronte à notre propre mort. C'est ça qu'il faut voir.
Certain,
on
oui,
est toujours, on sait bien que c'est, je répète le mot que j'ai dit au début, que c'est inéluctable, que c'est notre lot, et oui, on a besoin de rites, on a besoin d'accompagnement, on a besoin d'apprivoiser ce moment-là pour finalement un peu dépasser notre propre peur. Et le vertige que l'on a face à ce passage.
Oui, et justement, à propos des rites, c'est vrai que même les non-croyants, les non-pratiquants ont besoin de ces rites depuis la nuit des temps.
Oui.
Pour pouvoir vivre ce passage et, comme tu dis, faire le deuil. Parce que c'est l'expression qu'on utilise.
Oui. Et on vit, aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on vit dans une société qui a évacué la mort.
Mais bien sûr.
Parce que maintenant, c'est la médicalisation de la fin de vie. Les gens qui nous sont proches sont à l'hôpital. Et souvent, les familles sont éclatées, hein, parce que les enfants, ils partent à Paris, ils partent ailleurs. Donc, on ne vit pas les mêmes choses qu'autrefois, où ça se vivait dans la famille. Et donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'accompagnement. L'accompagnement de la fin de vie. Donc, moi, j'ai une petite expérience, puisque j'ai suivi des gens qui étaient en fin de vie. Parfois, pratiquement, ils étaient incapables de me parler. Et il y avait une communication non-verbale. Quand ils ne pouvaient pas parler, je leur tenais le poignet. Je faisais une caresse sur le visage. Quand ils pouvaient parler, je leur demandais de me dire un peu les points essentiels de leur vie. Parce que pour les raccrocher à quelque chose de positif. Hein,
c'est ça la sainteté, ce que tu as fait. Non mais sans orgueil aucun. Enfin, je veux dire que
est-ce qu'après 50 ans de mariage ta femme te met une auréole?
Ça n'empêche pas les zones d'ombre, évidemment.
Bernard, tu disais que la mort, justement, elle était un peu évacuée de nos sociétés, et c'est vrai que autrefois la mort, elle était entourée de noir. Maintenant, elle est entourée de blanc, puisque les gens, la plupart du temps, ils meurent dans les hôpitaux.
Oui.
Et la mort, tu sais, la mort, elle n'est pas complètement évacuée. La mort à sensation, la mort de masse, elle est largement montrée dans les médias, à la télévision notamment. Mais par contre, la mort
individuelle,
l'individuelle, elle est, celle-là, par contre, oui, c'est vrai, elle est un peu camouflée.
Voilà, donc moi, je crois qu'il y a un avant la fin de vie. Il y a les funérailles, il faudra quand même en parler, et puis il y a le deuil. Il y a ces trois étapes. Moi, je crois que c'est important. Il y a d'abord le problème de la douleur, de la souffrance, parce qu'il y a des gens qui en bavent avant de mourir. Et je crois que bon, la médecine a fait des progrès. Maintenant, les médecins s'occupent quand même un peu plus qu'avant de la douleur.
C'est sûr, oui.
Et ils sont formés un peu là-dessus. Donc, il faut donc accompagner, être présent, à l'hôpital, dans des situations difficiles. Il y a plein de gens qui le font, laïcs ou chrétiens. Et puis, il y a les funérailles, qui est un rite aussi, un des moments d'adieu qui extrêmement important. C'est l'adieu au visage, c'est une relation nouvelle qui va commencer avec cette mort. On peut la vivre de façon, une rupture inacceptable. On peut aussi, peut-être, et je crois que la séparation avec le corps est par essence spirituelle, me semble-t-il.
Mais bien sûr, oui.
Mais c'est justement que là, le fait de pouvoir vivre ces funérailles en groupe, en société, de vivre ensemble, de se sentir soutenu, c'est un moment qu'on vit en communauté,
oui,
pour
ça,
pouvoir
c'est fondamental.
Après faire le deuil individuellement. Mais c'est vrai que c'est fondamental, oui, de le vivre de le vivre avec ses rituels. Et justement, les problèmes de l'incinération, qui se développent hein, de plus en plus, est-ce que justement, il n'y aura pas un manque de rituels avec l'incinération ?
L'Église vient de sortir un texte, ces jours-ci, là, sur l'incinération, parce qu'on se pose des questions. Alors, la loi française en a sorti un déjà, hein. Tu peux pas garder les cendres chez toi, tu n'as pas le droit de les disperser, sauf dans des cas très particuliers ou comme ça, tu vois, on peut pas. Et l'Église dit, il faut un lieu de mémoire. C'est pour ça que il faut ce qu'on appelle des columbariums, ou enfin des lieux comme ça, où sont rassemblées les cendres, comme dans un cimetière, et l'Église tient à cela, si tu veux. Elle n'est pas contre le fait d'incinérer, mais elle dit surtout ne jamais oublier le lieu de mémoire où on va se souvenir du défunt, même devant ses cendres et tout. Et donc, bah, le lieu de mémoire, c'est pas la maison où tu gardes sur la cheminée les cendres, voilà, c'est des lieux comme ça, pour avoir aussi cet aspect, comme tu dis, communautaire. Voilà.
Et non, mais ça paraît indispensable. Et moi, je pense, par exemple, à ces jeunes qui ont une autre façon de visiter les morts, si on peut dire. Et quelque part, ça me semble être une échappatoire, comme ils répondent lorsque leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de la visite qui est faite rituellement tous les ans sur la tombe au moment de la Toussaint. Il y a des gens qui viennent de très loin pour revenir sur la tombe de leurs ancêtres. Et la plupart répondent, oh, mais moi, j'y vais quand j'en ai envie. Et en faisant comme ça, il faut bien le reconnaître, ça veut dire qu'ils n'y vont pas beaucoup, pas du tout. Alors je me demande si on ne doit pas quand même parfois essayer de continuer ce que nos ancêtres nous ont montré. Parce que si on n'a pas le souci de la visite, on perd la mémoire aussi.
Alors si tu veux, moi je vais vous parler de mon cas. Moi j'ai mes parents qui sont enterrés, mais loin d'ici, puisque je suis natif de Gironde, et donc je n'y vais pas pour la Toussaint, je n'y vais pas. Mais et puis je suis pas, j'avoue, un homme des cimetières trop, hein, parce que je me dis que l'essentiel est ailleurs. Pourtant, à chaque fois que je vais en Gironde, je passe sur la tombe et de mes parents. Tu vois, à chaque fois. Alors j'y vais pas très souvent. Tu me diras, c'est plus facile. Hein, non, mais à chaque fois, je passe parce que il y a ce lieu de mémoire,
voilà,
comme tu dis.
Voilà.
Alors la mémoire, elle est habitée par autre chose que par le lieu, mais il y a ce lieu de mémoire qui est important. Et moi, alors pour en finir, je me dis. Qu'est-ce que nous apprend la mort ? La mort des autres, parce que la nôtre, on ne l'a pas encore vécue, même si on en a peur. La mort des autres nous apprend à bien vivre. On n'a pas le droit de gâcher notre vie.
Tu vois ? Ça, c'est important. Alors,
bien vivre, ça ne veut pas dire vivre n'importe comment. Ça veut dire donner tout son potentiel de vie, le maximum de vie que l'on a. Et c'est le chemin du bonheur que propose le Christ avec les béatitudes. Voilà. Donc j'en reviens aux béatitudes parce que ça me semble être un chemin de vie. Par exemple, quand on dit « heureux les pauvres de cœur », les pauvres dont il s'agit ne sont pas les pauvres, ce sont les pauvres en savoir, en avoir, mais aussi les riches qui n'ont pas enfermé leur richesse dans un coffre. Voilà, c'est ça les pauvres de cœur. Hein. Heureux les doux. Les doux, c'est pas les mollassons, ceux qui disent rien. C'est rien, non. Mais ceux qui disent non à la fatalité, non à la violence. Heureux ceux qui pleurent. Les affligés, ce sont pas les pleurnichards, mais ceux qui savent qu'il faut semer dans les larmes pour moissonner dans la joie. Ainsi de suite. Heureux ceux qui ont faim des soifs de justice. La justice, ça commence comment ? Eh bien, par combler la faim de pain à tant d'hommes qui n'ont pas. Cette faim de pain, c'est la solidarité. Heureux les miséricordieux, c'est celui qui ouvre un avenir autour de lui. Heureux les artisans de paix. Les pacifistes ne sont pas les désarmés qui se laissent faire sans broncher. Ce sont des sentinelles vigilantes qui mobilisent toutes leurs forces contre le malheur. Voilà, enfin, voyez, on pourrait lire les béatitudes comme ça, alors qu'on est dans un monde du paraître, dans un monde de l'avoir, dans un monde du savoir qui écrase tout, dans un monde de la... Eh bien, être heureux, c'est quelque chose de plus profond en soi, et c'est un combat de toute une vie, et heureux. Les béatitudes devraient se traduire par heureux et en avant. C'est un mouvement, c'est une marche.
Didier Grandjean, tu parles comme un livre.
Non, mais oui.
C'est un symptôme.
Mais ça vient d'un livre.
Non, mais c'est très important, ce que tu viens de dire. Oui. Au-delà de la plaisanterie, c'est quand même quelque chose de très important qui accompagne.
Voilà. Non, mais si tu veux, vivre, c'est vivre cette quête quête du bonheur, quête du bonheur qui n'est pas une joie factice de l'Amlight ou de je sais pas quoi, hein, c'est une quête du bonheur mais profond.
C'est quoi Amlight?
L'Amlight, les lumières de la rampe là, tu vois, les éclairages, voilà. Et,
light. Voilà. Je sais pas combien de temps il nous reste.
Deux minutes.
Moi, je voudrais vous lire un passage de Bobin, qui a perdu sa femme aimée.
Oui. Alors, si vous voulez, je vous rappelle qu'on est sur CFM Radio 90.2, que on va écouter ce texte qui va terminer notre émission de ce jour, que Bernard va nous lire, et on écoutera, pour finir, un bout du Requiem de Mozart, parce que c'est une musique d'espérance.
Nous sommes aussi sur Radio Présence.
Et voilà. Donc, il a, après la mort de sa femme, sa bien-aimée, il a écrit un livre qui s'appelle « La plus que vive ». Et il a dit, mon livre, je croyais que c'était une gomme au départ. Et en fait, les choses véritablement vécues perdurent et ne tombent pas dans un cercueil sous la terre. Il n'y a pas de disparition. Les choses invisibles, les seules qui soient essentielles, reviennent tout naturellement à l'invisible, que ce soit un regard ou une voix, l'amour donné et la joie qui le suit. Elles ne sont pas palpables, mais elles nous font. Et elle ne se défend pas avec la mort. Je garde la voix de cette jeune femme, de même que je garde celle de mon père et le bon pain de son sourire. Tous m'habitent. C'est comme mon sang, des globules invisibles qui me sont aussi nécessaires que les rouges et les blancs. Elle, mon père, ma mère ou un poète chinois du 7e siècle, le point commun, c'est que les uns et les autres m'ont fracturé le cœur. Ils m'ont aidé à vivre.
Nous vous disons à bientôt.
Voilà, merci, au revoir et on écoute la musique.
Et bonne sainteté.
Yeah.